Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Alma Dufour, députée LFI NUPES de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors pour commencer, j'aimerais d'abord vous faire réagir à l'allocution du président Macron lundi soir. Est-ce qu'il a eu des propos qui vont vers l'apaisement ?
Alors pas du tout, clairement. Je pense qu'on a surtout le sentiment qu'il se moque un peu des Français. Enfin, clairement, je pense que tous les gens qui ont entendu ce discours se sont dit « mais de quoi il parle ?» C'est-à-dire qu'on lui parle de retraite, il nous parle de grands chantiers, mais sans annoncer aucune mesure. On lui parle d'inflation et de crise du pouvoir d'achat, il ne dit rien sur ça non plus. Tout le monde a trouvé ça extrêmement bref. Il n'y avait aucune annonce claire, concrète, sur aucun sujet qui préoccupe les Français. Donc forcément, non, je pense que c'est pas du tout de nature à apaiser les choses. Ouais.
Pour vous, Alma Dufour, la séquence des retraites n'est pas terminée.
Ah bah, c'est sûr qu'elle n'est pas terminée. Elle n'est pas terminée parce que, enfin, quand même, ce qui vient de se passer, c'est que le gouvernement a décidé de reprendre 2 ans de vie aux Français, c'est-à-dire de reprendre 2 ans de libre choix de son activité aux Français en décalant l'âge légal de départ à la retraite. Ce serait surprenant que les gens acceptent de se faire voler 2 ans sans réagir et acceptent de tourner la page aussi rapidement. Il y a eu ça, et puis il y a eu aussi évidemment le 49-3 qui n'est pas un sous-sujet. Il y a énormément de gens qui sont sortis dans la rue aussi avec le 49-3 et qui ne supportent plus cette manière de passer en force du gouvernement sur aussi le Parlement, mais évidemment sur la population dans son ensemble. Et donc tout ça a créé quand même une crise qui est assez profonde. Mais je crois qu'il n'y a qu'Emmanuel Macron pour ne pas se rendre compte de l'état du pays en ce moment. Et je vois plein de commentateurs un peu partout dans les médias. Au moins, tout le monde se met d'accord pour dire que nous traversons quand même une vraie crise. Une crise à la fois sociale, c'est une évidence, mais aussi une crise de régime.
Pierre Rosanvallon, qui est professeur au Collège de France, a parlé de la pire crise démocratique depuis la guerre d'Algérie.
Voilà, tout à fait. Je pensais notamment à M. Rosanvallon, qui n'est pas... qui est quand même quelqu'un de plutôt modéré, qui s'est exprimé quand même avec des mots très forts en expliquant qu'effectivement, voilà ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que non, ce qui se passe n'est pas anodin. C'est sûr que la crise démocratique ne date pas de la réforme des retraites, l'abstention grandissante dans le pays ne date pas de la réforme des retraites. Néanmoins, au lieu d'essayer d'arranger cette situation qui commence à poser de sérieux problèmes, on a l'impression que ce gouvernement rajoute de l'huile sur le feu. Il pense avoir gagné en passant en force comme ça sur les Français, sur les grévistes et sur les manifestants, mais en fait, ce qu'il va faire, c'est aggraver une crise plus profonde et au long cours qui finira par lui revenir en boomerang dessus.
Concrètement, vous espérez une nouvelle motion de censure, éventuellement un bras de fer sur le plan syndical, de nouvelles grèves par exemple ?
Oui, alors effectivement, nous, de notre côté, du côté parlementaire, on va tenter effectivement de déposer une motion de censure en appelant à la responsabilité des Républicains. C'est-à-dire que les Républicains jouent un jeu ambigu. On ne sait pas trop s'ils sont dans l'opposition ou ils sont en fait avec le gouvernement. Quand ça les arrange, ils sont dans l'opposition. Quand ça les arrange moins et qu'ils ont peur de la dissolution, bon, finalement, ils ne votent pas la censure du gouvernement. Néanmoins, les Républicains avaient négocié des contreparties à leur soutien... au soutien d'une partie de leur groupe, on va dire la réforme des retraites, qui ont disparu du texte avec le Conseil constitutionnel. La question c'est, effectivement, puisque les contreparties ont disparu, nous pensons que les Républicains doivent rediscuter entre eux et en fait, nous leur rappelons qu'ils sont avant tout élus par les Français, pas élus pour être une béquille politique du gouvernement Macron, ni un parti qui aurait peur de perdre des sièges et donc qui refuserait de retourner aux urnes. Ils ont malheureusement la clé, entre guillemets, du blocage des institutions aujourd'hui dans les mains et qu'ils s'en servent parce que les Français attendent ça d'eux surtout.
Alma Dufour, dans son allocution, Emmanuel Macron a mis l'accent sur la planification écologique. Est-ce que vous lui faites confiance pour lutter contre le réchauffement climatique ? Je rappelle que vous êtes une militante pour le climat avant d'être députée.
Alors non, et je commence à en avoir vraiment par-dessus la tête, pardon, que l'écologie soit toujours utilisée comme l'excuse quand on veut se sortir d'un mauvais pas social ou d'une violence sociale. C'est-à-dire que souvenez-vous quand même que l'augmentation de la taxe carbone pendant les Gilets jaunes, vous savez pourquoi elle avait eu lieu? Elle avait eu lieu pour justement combler le déficit creusé par le fait qu'on supprimait une partie de l'impôt sur la fortune. Et là, encore une fois, on s'était servi de l'écologie comme excuse pour cacher en fait une mesure inégalitaire socialement. Alors là, maintenant, on fait la réforme des retraites et d'un coup, Emmanuel Macron redécouvre l'écologie et redécouvre que c'est le sujet majeur du siècle pour les Français et pour le monde. Le problème, c'est que c'est le même président dont le gouvernement a été condamné 2 fois pour inaction climatique. C'est le même président qui avait promis dès son élection, sa réélection, 10 milliards de plus par an pour l'écologie au moment du deuxième tour face à Marine Le Pen, et qui, dans le budget 2023, n'a octroyé qu'un peu moins de 4 milliards, c'est-à-dire que le compte n'y est pas du tout, donc il ne tient pas ses promesses. Il nous parle de grands chantiers, on a eu tout le budget 2023 pour sécuriser des investissements et sur l'hôpital et sur l'écologie. Et il nous a roulé dessus à coup de 49-3. Il a supprimé les 12 milliards pour la rénovation énergétique qui avait été votée par la NUPES, mais aussi par la droite. Enfin bref, tout ça, c'est une escroquerie. C'est-à-dire, rappelons aussi qu'il a fait la Convention citoyenne pour le climat. Hein, il avait tiré au sort 150 citoyens qui lui ont donné des mesures très claires à mettre en œuvre justement pour atteindre les objectifs climatiques du pays. Qu'est-ce qu'il a fait de ces mesures? Il les a quasiment toutes balayées parce qu'il écoute les lobbies. Donc à un moment donné, sur l'écologie, Emmanuel Macron n'est pas sincère, ne l'est toujours pas. Moi, je crois plus ces belles paroles, j'attends des actes. Quand j'aurai vu le plan d'investissement année après année, je pourrai me prononcer dessus, mais pas avant.
Emmanuel Macron a évoqué la nécessité de lutter contre la fraude fiscale et la fraude sociale. Bruno Le Maire a prononcé cette phrase « Nos compatriotes en ont ras-le-bol de voir des personnes toucher des aides qu'ils payent eux-mêmes et les renvoyer au Maghreb ou ailleurs alors qu'ils n'y ont pas le droit ». Comment réagissez-vous à cette déclaration du ministre de l'Économie ?
Je peux être franche ? Franchement, je trouve ça à vomir. Non, mais vraiment, c'est-à-dire que hier, on a vu que agiter la santé et l'écologie, ça marche plus parce que les gens n'y croient pas une seconde. Enfin, pareil pour la santé. C'est maintenant qu'on se souvient qu'on a un vrai problème de saturation des urgences au lendemain de la promulgation de la réforme des retraites. Et donc, comme ça, manifestement, ça prend pas trop dans l'opinion. Qu'est-ce qu'on fait? On essaye de créer une polémique raciste qui vise... Enfin, je veux dire, c'est quand même grave. Et effectivement, ce gouvernement est de plus en plus complaisant avec la rhétorique d'extrême droite. Alors oui, chasser la fraude fiscale, c'est très important. En tout cas, là, il parle surtout de la fraude aux allocations sociales. Déjà qu'il assimile directement avec le fait d'avoir de la famille dans d'autres pays ou une double nationalité ou des proches dans d'autres pays, c'est quand même profondément raciste. Et puis par ailleurs, c'est surtout oublier quand même que la fraude fiscale et l'évasion fiscale est 10 fois plus importante que la fraude sociale, qui elle-même n'est pas, quand on parle de fraude sociale, c'est vaste, c'est surtout une fraude des patrons, enfin des cotisations patronales quand on dit fraude sociale. La fraude aux allocations, c'est une goutte d'eau dans l'océan des fraudes des entreprises en fait, et notamment de l'évasion fiscale des grands patrons. Donc moi, il relance une polémique pour diviser les Français. Et en attendant, ceux qui se frottent les mains, c'est justement les multinationales du CAC 40, pour qui nous sommes en train de faire cette réforme des retraites. Hein, parce que, contrairement à ce qu'on vous dit, ce que dit le gouvernement, en fait, la réforme des retraites est là pour dégager des économies supplémentaires parce qu'on continue à baisser les impôts des grandes entreprises depuis l'élection d'Emmanuel Macron en 2017, mais là aussi depuis 2022, puisqu'on a supprimé encore 16 milliards d'impôts, notamment sur les plus grandes entreprises. Donc c'est ça aujourd'hui que les Français doivent rembourser avec 2 ans de travail. Donc c'est encore une diversion, et en plus une diversion raciste qui est là pour créer de la division. Je veux dire, au bout d'un moment, ils n'auront plus besoin de Marine Le Pen pour faire une menace fasciste. On se demande des fois par moment s'ils s'entendent ou s'ils se rendent compte en fait du glissement qu'ils sont en train d'opérer et du rapprochement idéologique qu'ils sont en train de faire avec ce parti.
Alors, Alma Dufour, Emmanuel Macron veut renforcer le contrôle de l'immigration illégale tout en intégrant mieux ceux qui rejoignent notre pays. Il pourrait y avoir 2 textes de loi, l'un qui serait répressif, l'autre qui octroierait des permis de séjour aux sans-papiers qui travaillent dans des secteurs en tension. Est-ce que vous pourriez voter l'un des 2 textes? J'imagine le second en tout cas.
C'est une vraie question, c'est un vrai débat. Et le fait, Emmanuel Macron n'est pas un idiot. Il est hors sol, mais il n'est pas idiot. S'il saucissonne, entre guillemets, s'il découpe le texte en plusieurs morceaux, c'est pour se donner une chance de le faire passer. Parce qu'il sait qu'effectivement, comme c'est un texte ambigu, il risquait d'avoir l'ensemble des groupes qui voteraient contre pour une raison ou pour une autre. Donc le fait de séparer les deux morceaux lui garantit que Renaissance va voter pour les deux morceaux et que l'extrême droite va voter contre un morceau et peut-être pour le morceau le plus répressif. Et à l'inverse, la NUPES serait tentée de voter pour le morceau le plus social, enfin en tout cas le plus tolérant. C'est une évidence que c'est quand même difficile. Quand on connaît la situation de travailleurs sans papier qui sont exploités depuis des années par des entreprises avec des conditions de salaire et de rémunération indignes dans des secteurs où c'est structurel, hein, c'est-à-dire que c'est pas des accidents de parcours, c'est pas dans quelques entreprises. Je veux dire, dans la restauration, on va pas se mentir, hein, je vais dire les choses très clairement, dans la restauration, dans la livraison de colis, dans la livraison de repas, etc., ces modèles économiques fonctionnent structurellement avec de la main-d'œuvre qui n'a pas forcément de papier. Je veux dire, en Île-de-France, un tiers, je crois, des livreurs n'ont pas de papier. Donc, on parle de ça quand même. Donc, on parle d'une exploitation structurelle qui est tolérée, en fait, parce qu'elle arrange bien tout le monde et qui est raciste, en plus. Enfin, je vais dire aussi clairement, je pense que si ces gens, si les livreurs étaient des blancs, justement, sans doute que les gens se poseraient peut-être un peu plus de questions. Je vais être cash. Et donc, effectivement, pour nous, c'est difficile de voter contre le fait de reconnaître des droits à ces travailleurs. Après, la position générale de la France insoumise sur ce texte n'est pas encore arrêtée et on n'a pas encore les textes, donc voilà, je ne peux pas m'engager au nom de mon groupe et il y aura encore des débats.
Alma Dufour, le ministre de l'Éducation nationale, réclame aux écoles privées de s'engager à recruter des élèves de toutes les origines sociales. Est-ce que c'est un bon moyen pour favoriser la mixité sociale à l'école ?
Moi personnellement, je crois pas trop à l'école privée. Enfin, et la France insoumise plaide surtout pour un renforcement des moyens donnés à l'école publique, qui reste le patrimoine de tous les enfants, quelles que soient leurs conditions de revenus et les conditions d'une formation et d'un accueil. Aujourd'hui, l'école publique souffre. L'école publique est en crise. Les enseignants n'en peuvent plus, mais aussi les élèves hein, qui se retrouvent par moment dans des conditions d'apprentissage difficile. Sur ma circonscription, c'est le cas. Je vous donnerai l'exemple du collège Mandela, par exemple, sur Elbeuf, où on est quand même dans une situation de saturation qui est inquiétante, où les élèves ne peuvent même plus aller aux toilettes en fait de la journée parce qu'il n'y a pas assez de place. Il y a trop d'élèves et pas assez de toilettes. Mais on en est là quand même. Hein. Je veux dire, il y a des endroits en France où ça se passe comme ça. Et donc, dans cette situation-là, parler des écoles privées, leur demander de faire un effort, on ne sait pas lesquelles, etc. Encore une fois, en remettre à la bonne volonté de certains acteurs privés qui ne feront pas les efforts et qui ne feront pas le travail, c'est encore une fois avancer des fausses solutions. C'est comme quand il dit, pour donner une analogie, c'est comme quand il renvoie à la négociation entre patrons et salariés pour améliorer les conditions de salaire des salariés. Enfin, ça fait des mois qu'ils en parlent. Pareil sur la spéculation et l'inflation. Ah, on va demander à l'industrie et à la grande distribution de négocier ensemble et puis on va voir ce qu'il en ressort. Et finalement, il n'en ressort rien et l'État n'agit pas. Donc là, encore une fois, c'est une démission du politique parce qu'ils ne veulent pas dépenser d'argent, hein, on va être très clair. Et donc, à la fin des fins, j'y crois quand même moyennement.
Alma Dufour, dans votre circonscription, il y a un grand sujet d'inquiétude, c'est la ZFE, la zone à faible émission imposée à 13 communes de la métropole de Rouen. Qu'en est-il du calendrier prévu pour interdire les véhicules les plus polluants ? De quelle manière les habitants des villes que vous représentez, Elbeuf, Grand Couronne notamment, sont-ils pénalisés par cette mesure ?
Alors, non, c'est un sujet très intéressant et assez douloureux parce que mal compris aussi. Donc, en gros, le calendrier, malheureusement, officiellement, l'interdiction de circulation des véhicules critères 4 et critères 5 sur Rouen et sur certaines communes limitrophes de Rouen est déjà en vigueur. Donc, aujourd'hui, vous êtes un habitant d'Elbeuf, vous voulez vous rendre sur Rouen et votre véhicule est critère 4 ou critère 5. Officiellement, vous n'avez pas le droit de circuler à partir de Grand Quevilly. Néanmoins, c'est un peu plus compliqué que ça parce que je vais là aussi être assez franche. En fait, à la fois la préfecture et à la fois les mairies et notamment et la métropole de Rouen et son président, savent pertinemment que le dispositif en l'état est inapplicable. Inapplicable parce que les aides sont complètement insuffisantes pour vous acheter un véhicule critère 1, critère 2 ou critère 3, qu'en plus les véhicules, notamment électriques, les prix ont augmenté justement avec l'entrée en vigueur des ZFE, ce qui fait qu'aujourd'hui ils absorbent les aides. C'est les constructeurs automobiles qui absorbent les aides, mais le reste à charge pour un ménage est toujours aussi important. Les seuils sont complètement loufoques, c'est-à-dire que vous avez le maximum des aides si vous êtes au RSA. Mais en fait, dès que vous dépassez un peu le SMIC, vous avez quasiment plus le droit à grand-chose. Enfin, je veux dire, un ménage en ce moment ne s'en sort pas. Et en plus, avec l'inflation, enfin, je veux dire, ça c'est pas praticable. Donc, en fait, les autorités le savent, c'est juste qu'ils ne le disent pas parce qu'ils veulent pas reconnaître qu'ils veulent pas reculer. Donc moi, je sais que les habitants de ma circonscription sont angoissés. Donc moi, j'essaie de les rassurer en leur disant que pour l'instant, il n'y a pas de contrôle effectif. Et puis surtout, nous, on est opposés, on demande un vrai moratoire déjà parce que c'est hypocrite. Et deuxièmement, aujourd'hui, il y a plein d'incohérences écologiques aux dispositifs qui sont pas réglées. Et notamment, moi, je veux bien qu'on mette en place une ZFE, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on attend pour nous dire quand est-ce qu'on aura l'extension du métro, notamment jusqu'à Elbeuf, ou en tout cas du train jusqu'à Elbeuf. Ressusciter la ligne Rouen-Elbeuf, ça fait 50 ans qu'on en parle, c'est toujours pas fait. Ça, c'est de la vraie écologie. Et ça, par contre, il n'y a aucun engagement ferme de l'État, aucun engagement ferme de la région. On ne sait pas, la métropole ne sait pas si on aura ou pas un métro, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est de l'arnaque. Et à un moment donné, effectivement, oui, les habitants de ma circonscription, qui sont quand même des ménages plutôt modestes, sont pénalisés. Ouais.
La difficulté, c'est quand on doit aller à Rouen pour aller à l'hôpital, par exemple, ou pour aller chez le médecin, c'est compliqué.
Bah, oui, tout à fait, c'est très compliqué. Il n'y a pas pour l'instant d'exemption petit rouleur, ce qui a été fait dans d'autres villes, c'est-à-dire qu'il faudrait à minima avoir une carte qui vous permet d'avoir des trajets, notamment pour accéder aux services publics. Là, je veux dire, effectivement, comme vous l'avez dit, il y a des services publics qui maintenant se concentrent de plus en plus sur la ville de Rouen, même si on a quand même la chance d'avoir un hôpital à Saint-Aubin-les-Elbeufs, quand même, je précise, heureusement. Mais effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. Et ça devrait être pris en compte. Les travailleurs en horaire décalé, qui de toute manière n'auront jamais de transport en commun fonctionnel aux heures où ils embauchent, notamment les soignants, par exemple dans l'hôpital du CHU de Rouen, rien n'est pensé pour eux. Pareil pour les étudiants qui, même pas en rêve, ils ont les moyens de faire un crédit et de s'acheter une nouvelle voiture. Enfin, il y a plein de gens qui sont laissés sur le bord de la route avec ce dispositif qui socialement a été quand même assez mal pensé, quoi.
Merci Alma Dufour, je rappelle que vous êtes députée LFI NUPES de la 4e circonscription de Seine-Maritime. Bonsoir.
Merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.